Radio G 101.5 FM. Chronique, reportage, interview, expérience radiophonique. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodessavoir.fr.
Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
On dit que le hasard fait bien les choses, encore faudrait-il qu'il existe. L'avancée des connaissances fait reculer les frontières du continent de l'inconnu. Ce territoire voit encore s'épanouir le hasard, l'inexplicable, la coïncidence ou encore les voies impénétrables des divinités. Mais il ne fait pas bon surprendre aujourd'hui. L'homme préfère savoir, expliquer, comprendre les causes, prévoir les conséquences. La prédiction des Pythies de la Grèce antique a laissé place à celle des probabilités. Les catastrophes météorologiques, par exemple, autrefois châtiment des dieux, sont désormais modélisées des jours à l'avance. Mais peut-on vraiment tout expliquer? N'y a-t-il pas une part d'aléatoire qui persiste dans l'avancée du monde? Quelle place y a-t-il pour le hasard dans la science aujourd'hui? Bienvenue à l'écoute du Labo des Savoirs. Pour cette émission, pas de place pour le hasard ou pour l'improvisation en plateau. Avec nous aujourd'hui, il n'y a que les meilleurs. Mélissa, bonjour.
Bonjour.
Tu nous as concocté un petit jeu pour créer ensemble une suite de nombres aléatoires.
Ouais.
Avec toi, Céline, nous verrons qu'en biologie et dans l'évolution des espèces, le hasard a toute sa place.
Tout à fait.
Avec nous également, Julie, qui est sur le plateau du Labo des Savoirs pour découvrir l'émission et qui sait peut-être rejoindre le groupe des bénévoles. Bonjour Julie.
Bonjour.
Et Katia est à distance pour sa deuxième chronique du Labo. Tu vas nous parler des jeux d'argent et de hasard et de l'addiction qui peuvent engendrer. Et enfin, nous entendrons Nicolas Petrelis, maître de conférences en mathématiques à l'Université de Nantes du laboratoire Jean Leray et spécialiste de la théorie des probabilités. Il nous expliquera à quoi diable servent ces probabilités dont on entend parler si souvent. Et nous verrons ensemble que le hasard n'est pas si désordonné et imprévisible que l'on croit. En fin d'émission, bien sûr, il y aura notre quiz. Alors, restez jusqu'au bout. Et on commence tout de suite avec la désormais traditionnelle question du tour de table. Est-ce que vous, les filles autour de cette table, vous avez déjà vécu un heureux hasard, une coïncidence que vous n'arrivez toujours pas à expliquer, Mélissa?
Alors moi, c'est pas moi personnellement, mais c'est mon papa qui est né en fait un 10-10, donc un 10 octobre. Et quand il était petit, il avait des amis qui étaient nés le 11-11 et le 12-12.
C'est génial!
Voilà.
Les dates, souvent, sont les plus faciles à trouver dans les hasards et les coïncidences. Est-ce que, Julie, tu as un exemple aussi en tête?
Oui, bah du coup, récemment, je suis allée travailler à Strasbourg pour animer un séminaire. Et en fait, on s'est rendu compte à la fin de la semaine qu'avec un de mes collègues, on était allé au même lycée. Voilà.
Et qui n'était pas du tout à Strasbourg, j'imagine?
Qui n'était pas du tout à Strasbourg, le lycée était à Nîmes, oui, pardon.
Ah ouais, rien à voir.
Voilà, rien à voir.
C'est lié à un exemple?
Mais moi, je reste dans les dates comme Mélissa. Ma grand-mère et deux de ses trois enfants sont tous nés un 19. Et puis, mon cousin et ma cousine sont tous les deux nés un 11 aussi. Mais pas du tout le même mois. Mais je trouve ça drôle. C'est plus simple de se rappeler des anniversaires.
Voilà, plus simple de se souvenir. Ben, moi, pareil, l'anecdote, c'est mes deux grands-mères sont nées la même année, à un jour de différence, alors que mes parents ont 7 ans de différence entre eux. Donc, c'était pas évident. Et moi, quand j'étais petite, je trouvais ça complètement merveilleux.
La science dans tous ses états, au Labo des Savoirs.
Difficile de définir le hasard, pour commencer. Le Larousse, c'est donc une puissance considérée comme la cause d'événements apparemment fortuits ou inexplicables. Mais le hasard porte surtout dans ses origines, l'origine de son mot, les mathématiques, ou plutôt les dés. Si l'on reprend l'étymologie, hasard vient de l'espagnol hasard, pardon pour mon accent, sans H avec un Z, tiré lui-même de l'andalou, de l'arabe andalou, hasard, jeu de dés, ou tout simplement dés. Les dés, l'instrument parfait pour choisir des nombres aléatoires, et si on peut se contenter du nombre de 1 à 6 Choisissons les dés, mais Mélissa, je crois que tu as un autre moyen de générer une suite de nombres aléatoires.
Et oui, alors aujourd'hui je vais vous proposer un petit jeu. Nous allons créer ensemble un générateur de nombres pseudo-aléatoires. Pourquoi j'ai dit pseudo-aléatoire et pas aléatoire, vous allez vite le comprendre. Le but ici est de créer une suite de trois nombres, mais pas n'importe comment. Célie, Julie, je vais vous mettre à contribution, vous allez choisir chacune une opération simple à faire. Exemple, plus 5, fois 2, moins 12, quelque chose comme ça. Vous gardez votre opération pour vous, vous ne dites rien à personne, et votre rôle sera de faire toujours cette même opération. Je vous conseille quelque chose de simple, ou sinon vous sortez discrètement vos calculatrices. Vous ferez donc votre opération chacune votre tour, toujours dans le même ordre, et on fera 3 tours. Vous pourrez dire le résultat de votre opération dans le micro pour qu'on puisse quand même savoir où on en est et pas perdre nos auditeurs et auditrices. À la fin de chaque tour, on notera le nombre final pour avoir à la fin des 3 tours notre suite de 3 nombres. Est-ce que tout le monde a compris ?
Oui. Oui. Moi j'ai compris, mais moi je veux jouer moi aussi.
Ben oui, alors toi Sophie, je te confie un rôle ultra important. Je dirais même le plus important, c'est celui de donner le nombre initial. L'origine qui déterminera toute la suite de nombres qui sera générée. On va l'appeler la graine. Mais pareil, tu le gardes secret pour notre audience, tu le passes à Célie discrètement. Et pareil, un nom pas trop compliqué, parce que si tu veux rester en bon terme avec le reste de l'équipe...
pour le calcul mental, tout ça. Ok, voilà. Très bien, c'est noté.
Donc nous allons faire 3 tours et avoir donc cette suite de 3 nombres. Sophie, c'est à toi, tu peux donner ton nombre à Célie, donc la graine.
Alors Célie, je cache pour les autres, je donne ce nombre-là. Très bien, j'ai fait un geste avec mes doigts.
Donc Célie, maintenant tu fais ton opération et tu peux nous donner donc ton nombre... Le résultat de ton opération.
8.
Très bien. Julie, avec ce 8, tu fais ton opération et tu donnes le résultat.
16.
Donc, le premier nombre de notre suite est 16. Maintenant, on va faire un deuxième tour de table en prenant exactement le même nombre. Donc, Célie, tu vas recommencer avec, donc, le résultat, avec 16.
20.
Ok. Julie.
40.
Donc nous avons 16, nous avons 40 et on va faire un troisième tour. Célie, tu peux faire ton opération.
44.
Yes. Et Julie.
88.
Très bien. Donc nous obtenons la suite suivante. 16, 40, 88. A priori, pas très aléatoire ces nombres car il y a une suite logique entre eux. Et même on pourrait deviner le nombre suivant qui serait 184. Et oui, mon calcul mental est très très fort. Mais donc, les générateurs fonctionnent exactement sur ce même principe. Donc, pas super aléatoire. C'est pour ça qu'on les appelle des générateurs pseudo-aléatoires. L'ordinateur ne pourra jamais créer l'aléatoire. Il ne pourra que le simuler, car derrière, il a besoin d'un algorithme qui lui donne les instructions à suivre. Alors, comment donner l'impression que ces nombres sont aléatoires ? Car clairement, là, notre suite, elle n'est pas terrible. Pour mériter le titre de pseudo-aléatoire, c'est pas si simple. Comme pour le prononcer d'ailleurs. Pas n'importe quelle suite peut y prétendre, il faut quand même vérifier certaines règles. Il faut que le comportement de cette suite soit imprévisible, même pas une petite régularité exceptionnelle qui pourrait quand même se tester. Imaginez un algorithme qui simule le tirage du loto, avec lequel on ne peut prédire le tirage gagnant à coup sûr tous les 100 millionièmes tirages. Génial, mais cet algorithme n'est pas pseudo-aléatoire. Même si ce n'est qu'un événement très rare, il reste prévisible, ce qui n'est absolument pas le cas du tirage du loto dans la vraie vie, malheureusement. Pour rendre notre algorithme plus proche de l'aléatoire que nous venons de le faire, on va compliquer un peu les choses. On va imaginer que Célie, au lieu d'être une simple opération, tu sois en fait carrément une fonction, c'est-à-dire une suite d'opérations complexes. Déjà plus compliqué à prédire le nombre suivant. Mais souvent, ces fonctions suivent des lois mathématiques connues, dites uniformes, donc au final, prédictibles aussi. Il faut donc perturber cette fonction pour rendre le résultat plus imprévisible. C'est là qu'intervient Julie. Julie, au lieu d'être toi aussi une simple opération, tu vas venir transformer le résultat de Célie en devenant une fonction. Grâce à toi, les résultats de Célie ne suivent plus les lois uniformes. À vous deux, vous allez devenir une méga fonction. Par contre, si on vous donne le même nombre de départ, vous allez quand même toujours donner la même suite de nombres. Donc au final, la complexité de l'aléatoire d'un générateur de nombres pseudo-aléatoire, ça vient de Sophie, la graine. le nombre à l'origine de toute la suite. Pour ça, Sophie, tu dois être toi-même aléatoire, mais du vrai aléatoire, de la vraie vie. Et là, il n'y a que l'embarras du choix. Tu peux être une désintégration d'un élément radioactif ou un bruit de fond électrique d'une résistance. Un événement physique de la vraie vie connu pour être aléatoire. Mais cela nécessite quand même un certain équipement d'observation qui est un peu cher et qu'on ne trouve pas au coin de la rue. Donc souvent, tu n'es qu'un clic. Oui, un clic de souris fait par un humain à un instant T bien précis. Cet instant T est traduit en un nombre qui sera la graine de notre méga-fonction. Ce clic étant imprévisible, il est dans la majorité des cas suffisant, par exemple, pour simuler un lancer de dés où l'enjeu est pas foufou. Mais pour des utilisations un peu plus complexes, avec un peu plus d'enjeux, comme pour simuler une expérience scientifique, tu peux être une combinaison d'un clic, plus d'un déplacement de souris, plus d'un temps précis écoulé entre l'activation de deux touches de clavier. En bref, en combinant différentes sources aléatoires, on obtient donc un résultat encore plus aléatoire. On parle ici d'entropie. Plus l'entropie est grande, plus la graine est imprévisible, mieux c'est. Et si tu veux que la méga fonction que tu alimentes atteigne le niveau cryptographique, c'est-à-dire le niveau ultime, utilisé pour sécuriser des données sur Internet par exemple, tu peux être une combinaison d'événements physiques non dépendants de l'homme. Par exemple, une combinaison de positions de 100 lampes à magma. Vous savez, ces lampes qui font des bulles de magma chelou. Eh ben, leur mouvement étant imprévisible et unique, une entreprise filme 24 heures sur 24 100 lampes à magma et génère ainsi des graines uniques pour leur algorithme de nombres pseudo-aléatoires. Bref, on ne pourra jamais créer une suite de nombres aléatoires purs, car l'ordinateur est par définition déterministe. Mais on peut s'en rapprocher le plus possible avec les générateurs de nombres pseudo-aléatoires, des algorithmes tellement complexes qu'on ne peut pas prédire la suite. Et vous, qu'est-ce que vous utiliseriez pour créer votre graine ?
Ah, moi, les lampes à magma, ça m'a beaucoup plu, l'idée d'avoir une pièce avec plein de lampes à magma qui bougent en permanence, filmées 24 heures sur 24, j'adore.
Exactement.
Moi, je pense que je serais dans le plus simple. J'écrirais tous les nombres et puis je demanderais aléatoirement à des gens dans la rue de piocher un petit papier de temps en temps.
Ça peut être, ouais. L'aléatoire participatif.
Ouais.
C'est vrai que ça peut être sympa. Mais je tends aussi pour les lampes à magma. J'avoue qu'une centaine de lampes à magma, il y a un effet un peu cryptique.
Puis un effet artistique avec.
Ouais. Ça a eu beaucoup de succès, ces histoires de lampes. Merci beaucoup, Mélissa, pour cette chronique. Alors, l'aléatoire, moi, j'ai rencontré quelqu'un qui le gère tous les jours de façon professionnelle. Il s'appelle Nicolas Petrelli. C'est un mathématicien, maître de conférences et chercheur à l'Université de Nantes, spécialisé dans la théorie des probabilités, les fameuses probabilités. Quand on parle de probabilité, alors personnellement, moi je pense à mes cours de maths, avec les lancers de dés, les lancers de pièces, les tirages de boules de couleurs différentes dans des urnes que personnellement je n'ai jamais vu la couleur, c'était que dans les exercices. Bref, les probabilités sont en réalité une sous-partie de la branche des mathématiques qu'on appelle l'analyse. Alors Nicolas Petrelli nous explique à quoi ça correspond.
Et donc a été développé justement pour essayer de traiter mathématiquement les phénomènes dont l'issue est aléatoire. D'accord ? Donc on peut distinguer deux types de phénomènes physiques, les phénomènes dont l'issue est déterministe, c'est-à-dire qu'on sait quand on démarre l'expérience, quelle va être l'issue. Alors, on peut prendre un exemple. Par exemple, si je prends un œuf et que je le laisse tomber par terre d'une hauteur suffisante, 1 ou 2 mètres, je sais que l'œuf va se casser quand il arrivera en bas. Par contre, si je fais pareil d'une hauteur beaucoup plus petite, par exemple à quelques centimètres, si je répète l'expérience, à certaines fois, l'œuf va se casser, d'autres fois, l'œuf ne va pas se casser. Et du coup, là, on peut dire, et on ne sait pas à l'avance, a priori, si l'œuf va se casser ou pas. Du coup, c'est une expérience dont l'issue est aléatoire et pas déterministe.
Donc quand on ne peut pas prévoir l'issue d'un événement, résultat, il est aléatoire. Jusque-là, on suit. Est-ce que c'est du hasard ? Eh bien, pas tout à fait.
Il y a beaucoup d'expériences comme ça dont on ne peut pas prévoir l'issue. Par contre, on sait que l'issue va se trouver entre différentes possibilités. Donc si on veut quand même aller un peu plus loin, une chose qu'on essaye de savoir, c'est ben, finalement, est-ce qu'il y a une issue qui est, donc on va dire, plus probable que l'autre, c'est-à-dire la probabilité d'occurrence qui va se réaliser plus souvent que l'autre. Et donc typiquement, c'est là que les probabilités commencent à intervenir, puisqu'on essaye de décrire l'issue, non pas de façon déterministe, mais donc de façon probabiliste, au sens où on essaye de savoir lesquelles vont intervenir les plus souvent.
On peut donc parier, en quelque sorte, sur le résultat le plus probable, celui qui a le plus de chances d'arriver. Mais pour savoir quel est le résultat le plus probable, un bon point de départ, eh bien, c'est de faire l'expérience pour de vrai.
C'est que finalement, on peut répéter cette opération un très grand nombre de fois de manière indépendante. Alors on pense au dé ou on pense à l'œuf de tout à l'heure. Bon, on a peut-être pas envie de casser trop de, mais avec le dé on peut le faire autant qu'on veut.
Donc on le fait vraiment.
Ouais, on le fait.
Alors, l'expérience pour de vrai.
On le fait. Alors, ce qui est important, c'est de faire l'expérience et que ces expériences soient réalisées de façon indépendante. Alors, on dit qu'elles sont indépendantes si la réalisation d'une expérience n'influence pas la réalisation des suivantes. Donc on note à chacun de ces lancers si notre expérience est un succès. Et puis on le fait un grand nombre de fois. D'accord ? Et on divise et on regarde la moyenne de nos succès. C'est-à-dire qu'on se demande combien on a eu de succès parmi les, disons, 1000 premières expériences. Et alors après, 1000, on peut le rendre muet. C'est-à-dire on peut dire que c'est parmi les N premières expériences et prendre N très grand. Et on va s'apercevoir que ce nombre qu'on va attribuer à l'événement aléatoire en question, en fait, il correspond à la limite de cette moyenne qu'on est en train de calculer sur les N premiers lancers qu'on a fait. Et ça, on peut le faire avec des événements beaucoup plus compliqués. C'est toujours ce qu'on va observer, qu'on a convergence vers un nombre qui va être en fait la probabilité d'occurrence de l'événement.
Alors, répéter une expérience indépendante un grand nombre de fois et en déduire les probabilités des résultats, c'est pas très compliqué, me diriez-vous. Mais alors, comment on fait pour des problèmes plus complexes ? Plusieurs solutions. La modélisation par ordinateur en est une, par exemple. L'utilisation de lois en est une autre. Nicolas Petrelis nous explique.
Dans beaucoup de cas, on ne peut pas vraiment le réaliser un très grand nombre de fois. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est qu'on essaye de le modéliser en disant, voilà, on pense que finalement, l'événement qu'on est en train de regarder, les issues qu'il va avoir, vont avoir des probabilités d'occurrence qui auront une forme particulière. D'accord, c'est ce qu'on appelle une loi de probabilité qu'on connaît en fait, qui sont des lois. Alors, vous avez peut-être entendu parler de ça, parmi les lois discrètes, c'est-à-dire qui prennent leur valeur dans l'ensemble des entiers naturels. On a donc les plus simples, c'est les lois de Bernoulli. Après, on a les lois binomiales, les lois de Poisson, les lois géométriques, etc. Donc ça, c'est des lois qui sont en fait des fonctions de l'ensemble des entiers naturels dans l'intervalle 0,1 et qui sont telles que, en fait, quand on somme notre fonction, ça nous donne le nombre 1 à la fin. Ça, c'est une loi de probabilité. Et on peut modéliser un événement comme ça qui va être un peu complexe en se disant, voilà, nous, on suppose que finalement, l'issue, okay, va avoir une loi de probabilité qui va être, par exemple, une loi de Poisson avec un paramètre inconnu et dont on va pouvoir, sur lequel on va pouvoir jouer pour essayer d'étudier notre modèle. Donc, par exemple, un autre exemple, c'est vous vous placez le long d'une autoroute et vous vous demandez combien de voitures passent dans un intervalle de temps fixé, toutes les 10 minutes. Alors ça, évidemment, vous pouvez le faire, mais vous n'allez peut-être pas le faire, vous n'allez pas rester à côté de l'autoroute pendant des jours et des jours. Donc, à un moment, il faut faire un modèle. Et donc, si vous voulez, on s'aperçoit que dans ce cas-là, le nombre de voitures qui vont passer dans un intervalle de temps donné en un point de l'autoroute, ça suit ce qu'on appelle, par exemple, une loi de Poisson.
Ces lois de probabilité sont donc comme des modèles, différents types d'aléatoires qui permettent ensuite de faire des calculs pour, si on reprend l'exemple des voitures, fluidifier le trafic ou prévoir les bouchons. Mais il existe un deuxième type de loi de probabilité.
Et puis après, ça peut se compliquer encore, où on peut avoir des résultats d'expériences aléatoires qui ne sont plus des nombres entiers, mais qui sont des nombres réels. Par exemple, si vous regardez la durée de vie d'un néon, okay, que vous avez au plafond, ça va pas être un nombre entier. Alors vous pourriez compter sa durée de vie en jours, là ça serait un nombre entier, mais si vous comptez vraiment sa durée de vie comme un temps, là ça sera un nombre réel entre 0 et plus l'infini. Et donc il y a besoin aussi de pouvoir modéliser ça, et pour modéliser ça on a des lois qui sont des lois qu'on appelle continues, cette fois, qui vont plus être caractérisées par une fonction sur un nombre, limité de nombres, comme les entiers, mais qui vont être caractérisés par une fonction qu'on appelle une densité de probabilité grand R dans, encore une fois, 0 plus l'infini. La caractéristique de cette fonction, c'est que son intégrale sur grand R tout entier va être égale à 1.
Alors si on résume, la théorie des probabilités consiste à décrire le plus précisément possible les issues d'une expérience aux résultats aléatoires. On peut utiliser pour cela des expériences concrètes, ou une modélisation informatique, ou encore des lois de probabilité, des modèles qui sont valables pour les nombres entiers, mais aussi pour les nombres réels. Mais alors concrètement, ça sert à quoi ? Eh bien, avec la théorie des probabilités, Nicolas Petrelis, dans son laboratoire, il étudie notamment les polymères, ces grosses molécules composées d'une répétition d'atomes, et il tente de prédire les conformations que ces polymères auront une fois qu'ils seront plongés dans un milieu précis. Mais ces probabilités peuvent être utilisées dans de nombreux domaines de l'industrie, l'énergie, le transport, etc. Alors, pour finir, on peut se demander où en est la recherche mathématique dans le domaine du hasard. Est-ce qu'on a vraiment encore des choses à découvrir ?
Pratiquement à chaque fois qu'il y a un nouveau résultat qui est obtenu, il donne naissance à plusieurs questions, il donne lieu à plusieurs questions nouvelles dont on se rend compte qu'effectivement elles sont très intéressantes et que pour aller plus loin, il faut réussir à y répondre. Donc, il ne faut pas voir ça comme un milieu qui est en train de se refermer. Au contraire, c'est un milieu qui est en train de s'étendre. C'est-à-dire que plus vous répondez à des questions, meilleure votre connaissance du sujet, du thème est. Et plus, en fait, de nouvelles questions vous viennent auxquelles vous avez envie de répondre. Donc, il faut voir ça plutôt comme un arbre qui grossit sans arrêt.
La recherche scientifique sur les probabilités a donc encore de beaux jours devant elle. On vous laisse digérer ces informations en écoutant le titre Demi de Balm et on revient juste après.
C'est bon de savoir.
c'est le Labo des Savoirs.
Vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs. On parle aujourd'hui du hasard qui, selon le dicton, fait bien les choses. On connaît tous d'ailleurs des histoires de découvertes scientifiques réalisées totalement ou en partie grâce au hasard. C'est l'exemple bien connu de la pénicilline qui va servir ensuite de base aux antibiotiques et qui a été découvert par Alexander Fleming. Le docteur londonien le découvre en rentrant dans son labo au retour de vacances. Il voit des boîtes de bactéries qui sont recouvertes d'un champignon blanchâtre. Alors, normalement, ce champignon est utilisé par un voisin de paillasse. Et là où le champignon s'est développé, il n'y a plus de bactéries. Le docteur Fleming comprend alors tout l'intérêt de cette découverte. Et ces découvertes fortuites ont un nom, c'est la sérendipité, soit la capacité à faire par hasard une découverte inattendue et à en saisir l'utilité. C'est surtout l'utilité qui est importante. Et sachez qu'il y en a un paquet des découvertes par sérendipité. Pour en citer quelques-unes, Christophe Colomb, par exemple, qui découvre l'Amérique par accident. Ou les ruines de Pompéi, et même la Vénus de Milo, qui était bien cachée sous terre et que personne n'imaginait trouver. Ou encore les rayons X, la radioactivité, etc. Mais dans la science, le hasard n'est pas qu'un invité surprise. Il intègre parfois des théories et en devient une composante essentielle. Je laisse Fred et Jamy faire la transition sur le sujet.
En tout cas, Darwin propose et défend la théorie suivante. C'est la nature qui sélectionne les individus les plus adaptés, les plus aptes à vivre dans tel ou tel environnement. C'est clair, Jamy ?
Ah oui, c'est clair. Mais Darwin va introduire un nouvel élément, un élément primordial, le hasard. Eh oui, le hasard.
Mais oui, Célie, le hasard. Alors, comment ça marche, cette histoire ? Raconte-nous.
Mais oui, Sophie, le hasard. Parce qu'on dit souvent, comme tu l'as dit, que la nature fait bien les choses ou qu'elle est bien faite. C'est par moments un peu discutable, mais soit. Par exemple, quand on apprend que le papillon ou l'abeille ont évolué avec les plantes qu'elles pollinisent et inversement, on a presque toutes et tous cette petite moue sur le visage qui fait « Ouais, bien joué, franchement, c'est pas mal ». Et c'est vrai que c'est pas mal, voire impressionnant. Mais si on en est là, c'est qu'il s'est passé pas mal de choses. Donc beaucoup d'entre nous ont été bercés par la théorie darwinienne de l'évolution, selon laquelle l'évolution biologique des espèces se fait par la sélection naturelle et la concurrence vitale, ou encore que l'évolution d'un poule quelconque se fait de manière autonome sur plusieurs générations. Petit rappel, cette théorie a été formulée en 1859. La redécouverte des lois de Mendel en 1900 vient bouleverser et alimenter cette théorie. Les lois de Mendel, au nombre de trois, concernent l'hérédité. Elles ont été mises en lumière par Gregor Mendel, moine et botaniste de nationalité austro-hongroise, grâce à des expériences sur des pois, les plantes, hein, pas ceux qu'on soulève à la salle. Les principales découvertes sont les suivantes. Un caractère, par exemple la forme du pois, peut présenter deux formes différentes, par exemple lisse ou fripée. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des allèles ou des gènes homologues. Un organisme hérite de deux facteurs ou allèles pour chaque caractère. Pour la forme du pois, cela peut être lisse et fripé. Sur ces deux facteurs, un est dominant et l'autre récessif, et le premier masque alors le second. Et enfin, ces deux facteurs se séparent lors de la formation des gamètes. Pour nous, c'est les spermatozoïdes et les ovules.
Alors les cours de SVT, c'est chouette, mais le hasard dans tout ça, est-ce qu'on en parle ?
J'y arrive. Pour que deux individus se reproduisent, il faut que certaines de leurs cellules qui portent le matériel génétique en deux exemplaires se divisent en deux cellules qui porteront alors un seul exemplaire de ce matériel génétique. Ces cellules sont appelées des gamètes. Elles ne sont généralement pas identiques puisque les deux exemplaires de gènes initiaux ne sont pas nécessairement identiques. Les chromosomes portent des versions différentes des gènes, les allèles, ce que Mendel appelait les facteurs. Lors de la rencontre entre deux gamètes, qu'on appelle communément la fécondation, le matériel génétique d'un individu se combine avec celui de l'autre pour former une nouvelle cellule, un nouvel organisme. Vous vous doutez bien que pour que ça fonctionne, il faut produire un certain nombre de gamètes de chaque côté des deux individus de départ, et donc une part de hasard intervient lors de la fécondation et de la création d'un nouvel organisme. Le patrimoine génétique du nouvel individu est donc composé aléatoirement d'une partie du patrimoine de chacun de ses deux parents. Mais ce n'est pas tout. À l'échelle de la cellule, une part du hasard intervient également. On parle de brassage génétique qui correspond à une recombinaison, c'est-à-dire un mélange de séquences génétiques plus ou moins grandes au sein d'un même individu. On les mélange, c'est pratique pour contribuer à la diversité génétique des individus et donc des populations. Mais je n'ai pas encore parlé des mutations. Ce sont des modifications rares, accidentelles ou provoquées, de l'information génétique dans le génome. Elles sont liées à des erreurs de lecture ou de copie de l'information génétique, ce qui conduit à produire un acide aminé et donc une protéine différente de celle initialement codée. Selon la partie du génome touchée, les conséquences peuvent varier. Par exemple, lorsqu'elle permet aux individus de mieux vivre dans leur habitat, ces mutations peuvent être transmises à la génération suivante et devenir la nouvelle norme, entre guillemets.
Alors, du hasard dans la fécondation, dans le brassage génétique, dans les mutations, c'est déjà pas mal. Et cette nouvelle norme dont tu parlais à l'instant, est-ce que ce serait pas un retour à la théorie de l'évolution de Darwin ?
Un petit peu, effectivement. Mais dans les années 30 à 50, les philosophes des sciences penche pour une théorie néo-darwinienne ou une théorie synthétique de l'évolution, qui consiste en une reformulation de l'évolutionnisme darwinien dans les termes de la génétique de Mendel. Selon Francesca Merlin, philosophe de la biologie à l'université Paris 1, dans son article « Le hasard évolutionnaire de toute mutation génétique ou la vision consensuelle de la synthèse moderne », l'un des piliers de la synthèse moderne ou théorie synthétique de l'évolution, est l'idée selon laquelle toute mutation génétique est aléatoire ou fruit du hasard par rapport à l'adaptation des organismes et de leur espèce. Elle propose d'explorer dans cet article la notion de hasard en faisant une analyse épistémologique approfondie. Je vous laisserai explorer tout ça, la référence de l'article est en description du podcast. Actuellement, d'autres théories de l'évolution existent. Le hasard y a toujours une place importante, complétée généralement par des connaissances grandissantes en génétique. Donc, on reste à l'écoute.
On reste au courant. Merci Célie pour cette chronique. Le hasard, on en parle donc depuis le début de cette émission, c'est l'inconnu. On ne sait pas ce qui va se passer et c'est un peu excitant. Tellement qu'on serait prêt à parier dessus, quitte à en devenir accro. Katia, tu as fait quelques recherches pour comprendre comment l'addiction au jeu de hasard fonctionne.
Oui Sophie, on a tous déjà entendu parler de personnes accro au jeu de hasard, mais avez-vous déjà entendu parler d'addiction au jeu des petits chevaux ? La réponse est probablement non. Et il y a une raison à ça. Les jeux de hasard et d'argent peuvent rendre accro, les petits chevaux, a priori, beaucoup moins. La question, c'est pourquoi ? Pour y répondre, je me suis principalement fondée sur la synthèse de l'INSERM « Jeux de hasard et d'argent, contexte et addiction » qui est disponible en ligne, et l'article « Addiction aux jeux de hasard et d'argent » de Amandine Luquien et Jean-Pierre Couteron, présent dans l'ouvrage « Addictologie en 47 notions ». Quand on parle d'addiction aux jeux de hasard, il est en fait plus précisément question de jeux de hasard et d'argent. Les jeux de hasard et d'argent, c'est ceux où le joueur mise de façon irréversible de l'argent ou un objet, et l'issue de ce jeu aboutit à une perte ou un gain, en fonction partiellement ou totalement du hasard. Le hasard, ici, est donc une caractéristique du jeu, et sa part est variable, la seconde caractéristique étant la mise en jeu d'argent.
Mais il y a beaucoup de jeux différents où l'on mise de l'argent et qui sont basés sur le hasard, non ?
En effet, il existe trois grands types. D'après Amandine Luquien et Jean-Pierre Couteron, il est possible de faire la distinction entre les jeux de hasard purs, par exemple les loteries, les grattages ou les machines à sous, les jeux de quasi-adresse où la connaissance de l'environnement donne un avantage sur le simple hasard. C'est par exemple le cas des paris sportifs ou hippiques. Enfin, il existe des jeux d'adresse où le hasard reste quand même déterminant sur l'issue du jeu, comme le poker. Les jeux de hasard existent depuis longtemps, et ça, la petite voix de C'est pas sorcier nous l'expliquait déjà en 2009.
Depuis la création de la Loterie Nationale en 1539, ses bénéfices ont toujours servi à financer la charité publique comme les églises ou les hôpitaux. Après la Première Guerre mondiale, l'Union des Gueules Cassées a repris la loterie pour venir en aide aux blessés de guerre. Depuis 1976, le loto est un monopole d'État qui est aujourd'hui géré par la Française des Jeux. Chaque année, près de 30 millions de Français jouent aux loteries, aux jeux de grattage et aux paris que cette société propose. C'est 5 fois plus que le PMU. Mais les temples des jeux d'argent comme le blackjack, la roulette, le poker et les machines à sous, ce sont bien sûr les casinos qui totalisent plus de 40 millions d'entrées par an.
Comme c'est une pratique ancienne, les addictions existent elles aussi depuis longtemps. Dès le début du XXe siècle, on a des descriptions précises d'addiction aux jeux d'argent. Mais avant d'aller plus loin, définissons ce qu'est l'addiction dont on parle depuis le début. L'addiction est définie par Goodman comme un processus dans lequel est réalisé un comportement qui peut avoir pour fonction de procurer du plaisir et de soulager un malaise intérieur, et qui se caractérise par l'échec répété de son contrôle et sa persistance en dépit des conséquences négatives. On peut aussi retenir l'approche de Laurent Carida qui retient 5 éléments: la perte du contrôle, l'envie irrépressible de consommer, l'activité compulsive, l'usage continu, et cela malgré les conséquences négatives. Concernant les jeux de hasard et d'argent, le DSM, donc le Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux de l'Association de Psychiatrie Américaine, et la CIM, Classification Internationale des Maladies de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui sont les deux références sur la question, prennent en compte les jeux de hasard. Ils reconnaissent que le hasard est à présent une addiction. Donc oui, si vous ne pouvez pas vous empêcher de jouer au loto toutes les semaines ou de rentrer dans un casino, c'est une maladie. Il s'agit d'une addiction sans substance et non plus d'un seul trouble du contrôle des impulsions. Et la description est très proche de celle de l'addiction à une substance. Il n'y a pas de tabac, pas d'alcool, pas de drogue en jeu, mais cela reste une addiction.
Mais alors, qu'est-ce qui rend addict dans les jeux de hasard et d'argent ?
Il semblerait que ce n'est pas tant la quantité de hasard qui rend addict, plutôt les caractéristiques structurelles du jeu en lui-même. Par exemple, quand on sait si on a gagné très vite après la mise, il y a un système de récompense du cerveau qui est activé. Le cas de l'espérance des gains élevés ou des faux gains, donc trop faibles pour rembourser la mise initiale, sont également des éléments favorisant l'addiction. Attention cependant, il existe aussi des facteurs explicatifs de l'addiction qui sont politiques, sociaux ou familiaux et qui peuvent jouer un rôle décisif. Le public concerné par les addictions est majoritairement masculin, il présente une grande impulsivité et avec des antécédents familiaux. Il y a aussi une prévalence de comorbidités addictives et des troubles mentaux chez les joueurs pathologiques. Ainsi, c'est plus la structure du jeu avec sa part de hasard en elle et l'implication des mises d'argent et du gain espéré qui nous rend accro. Pour ma part, je vais continuer de jouer aux petits chevaux.
Merci Katia, je pense que je vais également jouer aux petits chevaux, c'est plus sûr.
son des sciences au Labo des Savoirs.
C'était Imagination du groupe Darius et nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Mais avant, c'est l'heure du quiz, bien sûr. Alors, le quiz, est-ce que tout le monde est chaud? Est-ce que tout le monde est prêt de son micro? Est-ce que tout le monde est prêt à répondre aux questions?
Balance Sophie.
On a les mains sur le buzzer.
C'est parti. La première question, elle est un peu connue. Est-ce que vous connaissez le problème de Monty Hall? Ça ne vous dit rien?
Vas-y.
Laissez-moi vous rappeler. C'est un problème bien connu qui montre que là où on croit souvent voir du hasard se cachent en fait des probabilités. Encore elle. Voici l'énoncé. Nous sommes dans un jeu télévisé avec un présentateur et un candidat. Le candidat, a priori, c'est vous. Et vous, chers auditeurs. Le joueur est placé devant trois portes fermées. Derrière l'une d'elles se trouve une récompense. Disons un vélo électrique. Dans la version originale, c'est une voiture. Mais nous sommes écolos, au Labo des Savoirs. Derrière les deux autres portes se trouve un plat de brocoli périmé. Dans la version originale, c'est une chèvre, mais je trouvais ça beaucoup moins drôle. Vous devez désigner une porte. Le présentateur, ensuite, qui sait où se cache la récompense, le vélo électrique, ouvre une des deux portes que vous n'avez pas désignées pour révéler devant vos yeux ébahis un plat de brocoli périmé. Et là, il vous laisse le choix. Est-ce que vous conservez votre choix initial de la porte ou est-ce que vous changez et vous prenez la porte qui, la troisième porte qui n'a ni été choisie ni n'a été ouverte? Que faites-vous? À vos jeux.
Ah, c'est chaud.
Ouais, très bonne question.
J'aurais tendance à garder mon choix.
Mélissa garde son choix. Julie, est-ce que tu changes de choix ou est-ce que tu gardes ton choix initial? Je rappelle que la récompense est un vélo électrique.
Non, je pense que je garde mon choix.
Très bien. Célie, qu'est-ce que tu fais?
Bah, je vais pas faire comme tout le monde. Du coup, moi, je vais changer de porte et puis je négocierai l'empreinte du vélo électrique.
Tu changes de porte. Eh bien, Célie, c'est la réponse qui te permet de t'assurer une plus grande chance de victoire. Ça semble difficile à croire, mais je vous l'assure, si on garde son choix initial, les chances de remporter le vélo sont de 1/3. Si l'on change de porte pour reprendre la troisième porte, les chances montent à 2/3. En résumé, on double nos chances de gagner si l'on change de porte. C'est un peu contre-intuitif,
oui,
n'est-ce pas?
Parce que à l'origine, on pense qu'on n'a plus qu'une chance sur deux, en fait.
Exactement.
D'avoir... Ok.
Alors qu'en fait, du coup, le fait d'avoir une porte en moins nous donne de l'information. Donc c'est
exactement.
Censé,
ouais. Alors pour ceux qui n'ont pas tout à fait compris pourquoi on gagnait plus souvent si on changeait de porte, je vous invite à aller taper sur Google le problème de Monty Hall. Il y a des explications bien plus détaillées que celles que je viens de vous donner. Deuxième question, on reste dans le contre-intuitif. Parmi cette liste, quels sont les deux éléments qui vont par pair, qui ont la même courbe d'évolution, qui se suivent? Vous allez me comprendre. Le taux de divorce dans l'état du Maine et la consommation de margarine par personne aux États-Unis. Est-ce que ces deux éléments, ces deux évolutions peuvent avoir une courbe semblable? Deuxième exemple, l'âge de Miss America et le nombre de meurtres par brûlure, vapeur, objet très chaud. Voilà, est-ce que ces deux éléments peuvent avoir une courbe qui se ressemble et qui se suivent? Est-ce que c'est logique? On ne sait pas, on continue. Troisième élément, taux de mariage dans le Kentucky et le nombre de morts par noyade après être tombé d'un bateau de pêche. Quelles sont vos options? Lesquelles semblent pouvoir être corrélées de façon le plus logique?
Sachant que dans le Kentucky, il n'y a pas trop de mer à ce qu'il me semble.
Exactement.
Moi, je dirais la première. Ouais, le premier binôme ne me paraît pas improbable.
Donc le binôme, le taux de divorce dans l'état du Maine et la consommation de margarine par personne aux États-Unis serait potentiellement corrélé.
Ouais.
Je prends la troisième, moi, parce que Kentucky et mer, ce n'est pas probable, donc... Il y a
anguille sous roche.
Ouais.
Donc pour Mélissa, le taux de mariage dans le Kentucky et le nombre de morts par noyade après être tombé d'un bateau de pêche pourraient être corrélés. Eh bien, chers amis, sachez que les trois propositions sont justes. Toutes ces informations sont corrélées entre elles. Elles sont tirées du site Spurious Correlation de Tyler Vigen. C'est un ancien étudiant à Harvard. Et en fait, sur ce site, il répertorie plein de courbes d'éléments qui se suivent avec une forte corrélation. Donc effectivement, l'âge de Miss America, on voit l'évolution, ça suit tout à fait le nombre de meurtres par brûlure, objets très chauds, vapeur, etc. Pourquoi? On n'en sait rien. C'est du pur hasard. Souvent, quand on voit des graphiques qui se ressemblent, on se dit c'est peut-être une coïncidence, mais c'est peut-être aussi un lien de cause à effet. Non. Souvenez-vous, corrélation ne veut pas dire causalité. Ce n'est pas parce que le taux de divorce dans l'état du Maine augmente que il y a un lien avec la consommation de margarine. Tout ça est du pur hasard et c'est un délice de se balader sur le site, je vous le conseille.
si je peux me permettre. Je donne des cours d'esprit critique et du coup, ce site est incroyablement bien fait. Il y a un exemple que j'adore, c'est la corrélation entre le nombre de films de Nicolas Cage et le nombre de morts par noyade. Et à chaque fois, tout le monde tombe dans le bateau parce que si Nicolas Cage sort des films, bah, ça donne envie de se suicider. Du coup, voilà. Mais je recommande ce site.
Ce qui permet aussi de prendre du recul, tu parles d'esprit critique, et de se dire que non, c'est pas parce que ça ressemble beaucoup qu'il y a vraiment un lien de cause à effet.
Tout à fait.
Alors, il y a des coïncidences qui marquent, il y en a plein. Alors, vous allez sur Internet, vous en trouverez plein, des coïncidences valables, des coïncidences inventées. Et il en existe une que je garde au chaud pour vous. Un livre a prédit 14 ans à l'avance un événement gravissime qui est arrivé. Un événement que tout le monde connaît. Ce livre le raconte presque en détail, c'est assez troublant. Quel est cet événement ? À vos paris, allez-y, proposition.
Mais c'est pas dans les Simpsons, parce qu'ils sont un peu en avance aussi.
Alors les Simpsons, je voulais en parler, mais on peut en parler maintenant. Les Simpsons ont effectivement, dans un de leurs épisodes, montré Donald Trump en président des États-Unis avant que ça arrive, avant même qu'on en parle. Les Simpsons, ils sont pas mal, ouais. Mais c'est ce genre-là, un livre qui prédit un accident gravissime, une catastrophe humanitaire. Est-ce que ça vous parle ?
Un accident d'avion ? Un truc...
Ah, on est dans un accident de transport. Marée noire, non. On est près du bateau, ça se rapproche.
Le Titanic.
Le Titanic, ouais. Tout à fait. Oh. Titanic qui a coulé en 1912 et un livre 14 ans avant, en 1898, est sorti. Il s'appelle Futility et ça raconte le naufrage du Titanic. Mais en réalité, ça s'appelait à l'époque, enfin dans le livre, c'est un paquebot insubmersible à la pointe de la technologie qui s'appelle Titan. Les similitudes ne s'arrêtent pas là, puisque dans le livre, le Titan percute un iceberg un soir calme d'avril alors qu'il est en route pour New York. Et l'histoire du livre décrit également la tragédie de la mort de nombreux passagers à cause d'un manque de canots de sauvetage. C'est assez perturbant, n'est-ce pas ?
Est-ce qu'il parle aussi de l'histoire d'amour ?
Non.
Entre Léo et Kate.
Alors, je n'ai pas lu le livre Futility. Je ne sais pas s'il y a cette histoire d'amour-là. En tout cas, c'est assez perturbant de se dire qu'un livre a décrit 14 ans en avance ce qui a pu se passer. Et tous les exemples de coïncidences et de prédilections et d'œuvres de fiction qui racontent des choses qui se passent après, il y en a plein. Voilà, j'ai fini mon quiz. C'était rapide.
Merci.
Merci, Sophie.
On arrive à la fin de l'émission, mais Céline, je crois qu'une coïncidence t'est venue.
Tout à fait. Alors, pendant ce quiz, je me suis rappelée que ma grand-mère et sa sœur ont toutes les deux épousé un homme qui s'appelle... Enfin, les deux s'appellent pareil. Donc, ils ont le même nom de famille et le même prénom. Je trouve ça assez fou. Surtout que ma grand-mère, quand sa sœur a épousé ce monsieur, lui a dit que vraiment, il avait un prénom et un nom de merde et que c'était pas possible. Qu'elle allait pas pouvoir vivre sa vie avec cet homme-là. Et elle, quelques années plus tard... épouse un homme qui a le même nom et le même prénom.
C'est pas courant. En plus, c'était vraiment, ça s'est fait à des années de décalage.
Je pense que c'était quelques années de décalage, mais pas grand-chose.
Le karma.
Improbable.
Merci, Célie, pour cette coïncidence. Et cette fois, c'est bien la fin de cette émission sur le hasard. Merci aux chroniqueuses qui étaient avec moi en plateau, Célie et Mélissa. Merci à toi, Julie, d'être venue découvrir le Labo des Savoirs pour peut-être devenir bénévole. Merci à Katia, qui a fait sa chronique à distance. Merci à vous pour vos lumières. Merci également à Nicolas Petrelis de l'Université de Nantes pour avoir répondu à mes questions sur les probabilités. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Retrouvez toutes nos émissions et nos podcasts sur le www.labodesavoir.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
there's someone around me, dropping, rolling down. I drop myself in you. Ooh, words is whispering somewhere. I'm landing with my nails. I'm dreaming of a hotness. I'm close to my ear. I know, I do now know. My knee will just bleed to your feet. I don't know, I do now know. My knee will just bleed to your feet.
Time. radio G.